Bonjour, bienvenue à Radio Economica ce jeudi matin. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Luis Romero Recona, directeur général du service juridique à la Commission européenne. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à la rencontre de la DG Traduction, puisque nous sommes sur la radio de la DG Traduction à la Commission toujours, et de nous rappeler un peu l'essentiel de votre parcours qui est fort long au sein de l'administration publique, d'abord en Espagne, puisque vous êtes espagnol, puis à Bruxelles au sein de la représentation permanente dans des travaux historiques, hein, je pense, puis à la Direction générale environnement, à la tête de la Direction générale du budget. Et enfin, à la tête du service juridique de la Commission européenne, que j'ai appelé le cœur de la machine. C'est un remarquable parcours financier, mais aussi juridique, qui explique les raisons pour lesquelles je vous pose des questions assez amples, notamment dans le contexte des actuelles négociations sur le cadre financier pluriannuel. Tout Bruxelles, et je pense un petit peu plus loin, bruit de rumeurs sur les difficiles discussions qui se tiennent même aujourd'hui au Conseil européen sur l'avenir du budget européen. J'imagine que vous suivez ça d'un œil acéré, puisque finalement, vous n'avez qu'à regarder au travers de la rue de la loi pour surveiller nos chefs d'État et de gouvernement. La question qui se pose, c'est est-ce que les besoins sont si immenses aujourd'hui pour que l'Union européenne doive passer par des machines, des instruments financiers très novateurs, mais très peu habituels dans notre contexte européen qui est très normé. En particulier, je pense au plan de relance et à cette vaste emprunt que la Commission vient de proposer, qu'elle appelle Next Generation EU. Alors, vous avez été aussi à la tête du budget.
Merci beaucoup, Catherine. C'est vrai que je surveille le Justus Lipsius, où théoriquement le Conseil européen devrait se réunir et le nouvel immeuble Europa, où ces réunions devraient avoir lieu physiquement. Comme vous le savez, je ne surveille personne parce que c'est par téléconférence et le président du Conseil européen a tenu à garder les chefs d'État et des gouvernements dans leur capitale respective. Est-ce que les besoins sont si immenses? Je pense que la réponse la plus honnête que je peux vous donner est que je le crains. Je crains que même si nous n'avons pas encore une vue suffisamment précise des besoins financiers de l'Europe dans les années à venir pour sortir de cette crise, tout porte à croire que la récession économique va être d'une ampleur telle que la relance de la machine économique va nécessiter des moyens jusqu'à maintenant tout à fait inimaginables, je dirais. Tu as raison que j'étais directeur général du budget jusqu'il y a 11 ans, mais à l'époque, on ne pouvait même pas imaginer de pouvoir mobiliser tous ces moyens. On avait des tabous, on était autour de 1% du budget, du PIB communautaire comme limite maximum pour le budget de l'Union. Et je dirais que c'était des discussions artisanales par rapport ou en comparaison avec les négociations qui commencent aujourd'hui au niveau des leaders. Je crains que les besoins sont énormes. Je pense que pour l'instant, nous avons réussi à éviter la tentation extra-communautaire. Nous avons mis entre les mains des chefs d'État et des gouvernements les instruments qui devraient leur permettre de trouver une solution européenne via le budget de l'Union, comme Madame von der Leyen a tenu à le souligner. Maintenant, il faut s'attendre à des discussions difficiles. Les discussions budgétaires sont toujours difficiles. Vu les montants en jeu, elles ne seront pas faciles. Mais il y a un élément qui est différent. Cette fois, en plus de la taille, il y a un élément différent, c'est l'urgence. Les besoins pourront être estimés avec plus de précision dès le retour de la pause d'été, à l'automne, et il va falloir que ces moyens soient rapidement disponibles pour permettre aux États membres de réactiver leurs économies. Et si je peux ajouter un élément européen, je découvre que dans certains États membres, ils commencent à réaliser quelque chose. Peut-être, je ne dis pas que c'est un effet positif, mais comme conséquence de la pandémie, dans certains États membres, on commence à réaliser maintenant que investir dans les autres économies, investir dans les économies des autres États membres, c'est aussi un bénéfice énorme pour les propres économies de tous les États membres, parce que notre économie est tout à fait interconnectée. Et si l'économie portugaise ne marche pas correctement, ça pose ou ça risque de créer des difficultés en Finlande. Et si l'économie suédoise ne marche pas comme il faut, ça risque de poser des problèmes en Grèce. Donc je pense que là, il y a des éléments sur lesquels il faut bâtir la nouvelle confiance sur laquelle se basent les nouvelles propositions de la Commission. Je ne t'entends pas.
Est-ce qu'on va dans la direction d'un budget européen un peu musclé, un peu plus conséquent, puisqu'on a parlé de 1% du PNB, de manière durable? Est-ce qu'on est en train de franchir un saut quantique attendu depuis longtemps, puisque vous avez évoqué les bénéfices du marché intérieur, sur lesquels les États membres restent parfois un peu discret, en tout cas, ça n'enfonce pas un argument dans les négociations. Est-ce qu'on peut espérer qu'il va y avoir cette rupture pour trouver une énergie nouvelle pour relancer l'économie de manière durable?
Je pense que c'est trop tôt pour donner une réponse sérieuse à cette question. Pour l'instant, les propositions de la Commission sont basées et elles se tiennent précisément du fait du caractère transitoire et extraordinaire. C'est parce que c'est extraordinaire et transitoire que nous avons pu justifier sur le plan juridique les exceptions que nous proposons à certains principes et à certaines règles. Parce qu'il y a un article dans le traité qui, dans certaines conditions exceptionnelles, nous permet de ce faire. Ce ne sera que par la suite, une fois qu'on aura tiré les leçons de comment cela a fonctionné, que les chefs d'État et des gouvernements pourront, et la Commission bien entendu, devront mener une réflexion et voir si les résultats sont suffisamment positifs que ces sauts qui devra être fait selon d'autres instruments, c'est sûr, disons, dans la durée, pourra être agréé. Mais il faut que ce soit clair que la proposition actuelle ne tient que parce qu'elle est transitoire. Et donc, par la suite, c'est à nous, pardon, pas plus à moi, parce que moi, je ne serai plus là pour le voir, mais aux collègues, c'est aux fonctionnaires, à la Commission, de démontrer les bienfaits de ce système de budget européen un peu plus musclé pour convaincre les États membres dans 10, 15 ans de continuer sur un plan plus durable, plus long, avec ces budgets européens qui dépassera le 1% qui était le tabou jusqu'à présent. Mais il faut insister, moi je me rends compte que les médias discutent beaucoup de la taille et du caractère novateur. Moi je suis aussi préoccupé par la gestion dans la Commission, parce que évidemment, la Commission va devoir gérer des montants qu'elle n'avait même pas pu imaginer jusqu'à présent. Même sur le plan du financement, la Commission n'a jamais emprunté sur les marchés financiers des montants comme ceux dont nous parlons maintenant. Et ceci exige une expertise, ceci exige des équipes hyper compétentes qui soient derrière pour garantir que tout ça se passe correctement, parce que tout ça est fondée sur la réputation financière des institutions et le fameux triple A qui caractérise toutes nos activités d'emprunt.
Tout à fait, hein, 750 milliards d'euros. Bon, la Banque européenne d'investissement a une expertise, mais on est aussi une fonction publique à ressources très limitées. est toujours sous tension de nombre. Donc c'est vrai qu'on espère que la machine va pouvoir tenir ce choc qui sera considérable. Alors, la question budgétaire, elle est quand même là, donc c'est un peu difficile de l'éviter. Mais j'aurais peut-être voulu me tourner vers vos fonctions à la tête du service juridique, qui a quand même une position au sein de la Commission européenne et de la machine communautaire, comme je l'appelle, qui est tout à fait spécifique. Le service juridique donne des avis contraignants, il est impliqué dans tous les dossiers importants. Alors, selon vous, puisqu'on a des tests successifs, comment se porte cette machine aujourd'hui? Notamment, je pense au récent arrêt du tribunal de Karlsruhe, comme on dit, hein, le tribunal constitutionnel allemand, qui semblait remettre en cause la politique de la Banque centrale et les actions massives, mais assez décisives et déterminantes pour l'avenir de l'économie, qui ont été prises par Mario Draghi, puis par la nouvelle présidente de la BCE, Madame Lagarde.
Il faut savoir que les relations entre la Cour européenne de justice et la Cour constitutionnelle allemande ont une longue histoire. Je ne veux pas dire que à un moment donné, il fallait s'attendre à avoir cet arrêt, mais je me souvenais ces dernières semaines que c'était sans doute la commission Barroso II. On avait reçu au Berlaymont le président de la Cour constitutionnelle allemande, qui est parti à la retraite le lendemain de l'arrêt Weiss. Et je me souviens que le vice-président Šefčovič lui a offert un déjeuner au 13e étage. Et c'était je connaissais déjà M. Foscoulet d'autres occasions. Et ce déjeuner s'est très bien passé. Mais il faut savoir que à la fin de ces déjeuners, les sujets sur lesquels on discutait lorsque nous avons dû nous séparer, c'était comment contrôler au niveau européen et au niveau juridictionnel le mandat de la Banque centrale européenne. C'était déjà dans la tête de M. Foscoulet, dans la préoccupation de la Cour constitutionnelle allemande. Je me souviens de l'avoir dit, mais comment faites-vous en Allemagne pour contrôler le mandat de la Bundesbank? Et sa réponse était tout à fait justifiée et intelligente, comme toujours, en disant, attention, le mandat de la Bundesbank est un mandat très, très limité. Pratiquement, il ne faut pas le contrôler de manière juridictionnelle parce que son mandat est très limité, très circonscrit. Le mandat de la Banque centrale européenne est bien plus large et il faudrait qu'il y ait un contrôle juridictionnel. Ça doit faire, je ne dis pas 10 ans, mais sans doute 7 ou 8 ans de cette conversation. L'arrêt Weiss a deux aspects qui sont tous les deux préoccupants, mais il faut faire la part des choses. Dans la critique que la Cour constitutionnelle fait de l'activité de la Banque centrale européenne, c'est une question, disons, de proportionnalité, difficile à comprendre, mais de proportionnalité et surtout de justification. La Cour constitutionnelle demande à la Banque centrale européenne d'analyser la proportionnalité de ces activités d'achat d'actifs par rapport à la politique économique qui n'est pas dans son mandat. C'est-à-dire jusqu'à quel point la politique monétaire a dérivé vers la politique économique. Mais la Cour constitutionnelle ne dit autre chose que vous devez démontrer la proportionnalité de vos actions et si vous n'arrivez pas à le faire, la Bundesbank ne pourra pas participer dans le futur à ces genres d'activités. Ceci est un problème que nous connaissons. Maintenant, il faut que d'une certaine manière, les instances allemandes soient confortées, soient rassurées du caractère proportionnel et bien fondé des activités de la Banque centrale européenne. Ça pose d'autres types de problèmes, mais on peut isoler cette difficulté. La difficulté majeure de l'arrêt Weiss du point de vue juridique, c'est le fait qu'une cour nationale se soit auto-octroyée le pouvoir de ne pas appliquer des arrêts de la Cour européenne. Et là, évidemment, ça pose un énorme problème, parce que si les tribunaux nationaux commençaient à avoir une approche sélective et décider quelles sont les directives qui doivent s'appliquer ou pas s'appliquer dans leur territoire respectif, nous pourrions commencer à plier bagage. Nous sommes convaincus que ce problème peut être résolu par un dialogue, c'est-à-dire lorsque une cour nationale pose une question préjudicielle à la Cour européenne et elle n'est pas convaincue par l'argument ou par la conclusion de la Cour européenne de justice, ils ont toujours la possibilité de remettre une deuxième question préjudicielle visant à préciser le raisonnement ou les conclusions de la Cour européenne de justice. Autrement dit, la manière de résoudre ce problème est le dialogue entre les tribunaux pour arriver à des solutions qui soient satisfaisantes et qui permettent de garder la règle du jeu, de la primauté du droit de l'Union sur les systèmes juridiques nationaux. Donc, c'est un problème. Je ne cache pas que c'est tombé comme une douche froide le 5 mai dernier. Je dirais qu'il y a lieu de débat, il y a un débat plus médiatique que sur l'influence sur la Banque centrale européenne, mais la communauté juridique européenne fait couler des fleuves d'encre en discutant cette autre partie et quelles sont les réactions que les uns et les autres doivent avoir pour contrer les effets négatifs ou les potentiels effets négatifs de la Cour constitutionnelle allemande. Ça, c'est un problème très important. Mais pour moi, c'est moins préoccupant du point de vue, parce que ta question était sur comment se porte la machine communautaire. Moi, je suis beaucoup plus préoccupé par d'autres situations qui sont en train de se produire dans d'autres États membres et qui, elles, sont de nature à être considérées comme beaucoup plus risquées. Comme tu le sais, il y a des États membres dans lesquels on commence à parler avec des expressions bizarres comme démocratie illibérale et non-respect de l'état de droit, de la rule of law. Et là, il y a un problème supplémentaire, parce que dans les cas allemands, comme le disaient les juges, et même s'ils ont tort, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir davantage de contrôles juridictionnels sur les activités de l'exécutif, soit une institution, soit l'autre. Ici, dans les cas du non-respect de l'état des droits, le problème est tout à fait différent. Ce que l'on veut, c'est d'avoir un pouvoir judiciaire contrôlé par les pouvoirs exécutifs ou au moins par les pouvoirs législatifs. Et ça, c'est un problème très grave parce que tout le système communautaire est basé sur la séparation des pouvoirs. Si je ne suis pas sûr de l'indépendance des juges dans un État membre, je ne vais pas investir dans cet État membre. Parce que si demain j'ai un problème, il y a de fortes chances que les juges se limitent à répéter la position du gouvernement ou la position du parti majoritaire. J'ai besoin pour faire des investissements, j'ai besoin pour faire marcher l'économie, de savoir que je vais avoir un système de justice qui sera indépendant et impartial. Et qu'à un moment donné, si j'ai un problème avec le pouvoir en place ou des discriminations parce que je viens d'ailleurs, etc., j'ai besoin de savoir que ces pouvoirs judiciaires nationaux, les juges naturels, c'est quelque chose que l'on oublie très souvent. Les juges nationaux sont les juges naturels du droit de l'Union. La Cour européenne de justice n'examine qu'un nombre de cas très limité. Très souvent, le droit de l'Union est simplement exécuté, appliqué par les juges nationaux. Et si les États membres font en sorte que les juges nationaux ne sont plus indépendants, à nouveau, le système ne marchera pas et nous aurons des problèmes bien plus difficiles à régler. Donc là, vraiment, il y a un point de préoccupation juridique très important que je vais emporter avec moi.
Alors, l'article 7 a quelques défauts structurels, c'est-à-dire c'est les sanctions pour justement non-respect de l'état de droit, mais ceci à l'unanimité moins l'intéressé, ce qui se prête un petit peu à des jeux tactiques. C'est un article qui n'est pas facilement mis en œuvre, mais si j'ai bien compris, l'Union pourrait elle-même décider qu'elle est elle-même investisseur et que il y a lieu dans ces cas-là de mettre une conditionnalité dans la distribution des fonds, par exemple des fonds structurels, et que cette mécanique est une mécanique qui vise à protéger l'argent du contribuable européen. Donc c'est peut-être par là qu'on va organiser une sorte de dialogue, non, avec ces.
Je l'espère bien. Il y a d'autres moyens aussi limités, mais c'est un moyen très limité. Nous ne pouvons pas jongler avec les bases juridiques du traité. Et donc, que ce soit la conditionnalité dans l'utilisation du budget de l'Union, que ce soit, par exemple, et nous avons été impliqués et j'ai dû intervenir à maintes reprises en réunion du collège là-dessus, nous avons aussi la politique d'infraction. Mais la politique d'infraction ne peut être utilisée que lorsque, d'une manière ou d'une autre, il s'agit de l'application du droit de l'Union dans un État membre. Donc, l'instrument clé est l'instrument de l'article 7, qui est un instrument de nature politique. Et j'insiste beaucoup sur la nature politique de cet article 7 parce que nous pouvons utiliser d'autres moyens beaucoup moins efficaces, mais l'instrument qu'il faut utiliser, l'instrument qui est vraiment politique, qui a tout son potentiel, c'est l'instrument de l'article 7. Bien entendu, comme tu as parfaitement souligné, ça se prête à des jeux tactiques qui peut-être ne vont empêcher à cet article 7 de pouvoir être appliqué correctement. Mais c'est un sujet de préoccupation pour moi personnellement et pour beaucoup de collègues, parce que tout ce système a été établi pour être appliqué par des gentlemen. Et lorsque on commence à jongler avec les principes de base, le système n'est pas prêt et se grippera très rapidement.
Donc j'imagine, oui, un jurisconsulte va devoir quand même suivre ces affaires-là un petit peu, au moins d'un œil intéressé. Une autre question. Alors la commission géopolitique d'Ursula von der Leyen, est-ce que c'est bienvenu aujourd'hui? Et entre la méthode communautaire et la méthode de l'Union, quel est l'équilibre qu'on a trouvé, à titre peut-être temporaire, aujourd'hui? Quel est le jugement, l'appréciation éclairée que vous pouvez en avoir?
Question très intéressante, en commençant par la question de la commission géopolitique. La commission Juncker se définissait comme une commission politique, la commission von der Leyen se définit comme une commission géopolitique. C'est très bien vu. J'ai eu de longues discussions avec le président Juncker qui était convaincu que les juristes étaient contre le concept des commissions politiques. Et j'ai beaucoup discuté avec lui, j'ai essayé de le faire comprendre que lorsque on suit le droit de l'Union dès le début, on ne peut pas avoir de doute sur le caractère politique de la Commission. À chaque fois que la Cour de justice, dans un arrêt, dit que la Commission dispose d'une large marge d'appréciation à un sujet quelconque, c'est que la Cour de justice est en train de dire, avec des mots très savants, c'est que la Commission est une institution politique et peut faire des choix politiques. Par exemple, lorsqu'on dit que la Commission n'est pas obligée à lancer une procédure d'infraction, c'est que la Cour de justice est en train de dire, c'est que la Commission peut faire de la politique avec la politique d'infraction et ne pas lancer une politique d'infraction si elle considère que par d'autres moyens, elle peut arriver à un même résultat ou un résultat meilleur. Maintenant, la commission von der Leyen se présente pour une commission géopolitique. Je dirais, je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve que c'est assez bien vu. On voit de plus en plus des demandes qui sont adressées à l'Europe qui dépassent de loin le cadre et les territoires de l'Union européenne. La pandémie vient de nous mettre devant notre propre petitesse. Ce n'est pas parce que le virus ou la pandémie est plus ou moins contrôlée dans certains États membres que le risque disparaît. Il suffit que le virus soit actif dans un des continents qui sont proches du nôtre pour que le risque qu'il revienne chez nous est très élevé. Et donc, le fait de vouloir avoir une commission géopolitique me semble une excellente idée qu'il faut développer. On vient d'adopter des livres blancs qui vont dans ce sens, d'augmenter la souveraineté économique et politique de l'Union européenne. Je trouve que tout ça est très bienvenu, mais j'aurais toujours une petite appréhension face à ces déclarations, parce que j'ai toujours trouvé que au Conseil et au Parlement, on considère la Commission comme une institution un peu moins politique que le Conseil et le Parlement. Et j'ai toujours été partisan de faire les choses sans trop le dire et de moins le dire et plus le faire. Donc, je pense que la Commission peut être une commission géopolitique en concentrant beaucoup son activité sur ses tâches, les tâches qui lui sont dévolues par le traité, parce que ce sont déjà des tâches très considérables et en plus des tâches que nous voyons tous les jours, comment elles sont la demande de dépasser les compétences actuelles vient à nouveau le cas de la pandémie. Les compétences de l'Union européenne en matière de santé sont très très limitées, et notamment en matière de santé humaine. Et on a vu tout d'un coup que les États membres ont oublié ces faits-là pour demander à la Commission d'agir, pour demander des réactions européennes. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le virus ne comprend pas la distinction des compétences exclusives, partagées, etc. Et qu'il faut lutter contre le virus avec tous les moyens dont nous disposons. Et l'Europe a une valeur ajoutée indéniable à ce sujet.
Voilà. Alors, le temps passe vite, hein. Peut-être quelques mots sur le Brexit. Bon, voilà, l'affaire est lancée, le train est parti. On se demande comment il va arriver, peut-être en se fracassant, mais de toute façon, il fonce, il va tout seul. Qu'est-ce qu'on peut attendre en deux mots de ce long psychodrame et pour tout le monde un peu?
C'est un dossier d'une extrême tristesse. Même si, en tant que démocrate, nous devons reconnaître le résultat du référendum au Royaume-Uni et faire en sorte que les choses se passent pour le mieux, mais c'est un dossier vraiment triste, je dirais contre-intuitif, parce qu'au moment où nous nous rendons compte des besoins d'agir ensemble, même au niveau mondial, nous avons un de nos grands États membres qui a décidé de nous quitter, qui nous a quittés. J'ai mes refuges à tout optimisme dans ces dossiers parce qu'à chaque fois que j'ai été optimiste dans ces dossiers, j'ai été renvoyé dans mes rangs immédiatement. J'ai eu d'énormes discussions et de longues discussions avec mes amis britanniques, avec Catherine Day, sur les résultats du référendum. Tout le monde me disait, mais tu verras, les Britanniques sont pragmatiques. À la fin, ils voteront Remain. On voit que ce n'était pas le cas. À quoi il faut s'attendre? Je pense qu'il faut s'attendre maintenant à un accord commercial assez limité. Nous n'avons pas beaucoup de temps d'ici le mois de décembre pour des grandes négociations. Donc, je pense que si nous avons à la fin un accord commercial avec quelques éléments additionnels, sera déjà un succès. Ma préoccupation est que les Britanniques veuillent nous imposer quelque chose dont nous avons l'expérience et qui est un problème pour l'Union européenne. C'est d'avoir un système un peu comme nous avons avec la Suisse. Toute une série de petits accords qui ont un lien entre eux, mais un lien entre eux qui est tellement sensible politiquement qu'on ne peut pas utiliser. Et je pense que le bon conseil à laisser aux membres de la Commission et aux membres du Conseil, c'est qu'il faut éviter le piège de la multiplicité d'accords, qui est en ce moment ce que le Royaume-Uni souhaite, et peut-être faire des sacrifices pour garder au début un seul accord, de sorte à avoir tout dans un même paquet et avec une même gouvernance et ne pas avoir un système. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le conseil qui a dit il y a déjà longtemps que le système, les accords avec la Suisse ne marchent pas et qu'ils ont instruit la Commission d'essayer de trouver des solutions.
Petite note plus personnelle. Est-ce que vous pourriez nous dire enfin quelques mots, quels ont été les moments de votre carrière qui a été longue, donc il y a sans doute l'embarras du choix, le meilleur moment au fil de votre carrière?
C'est un peu compliqué parce que pour moi, le meilleur moment, c'est tous les jours. Hein. Je viens de terminer une réunion avec des jeunes collègues sur des points qui sont à l'ordre du jour du collège de cette semaine, donc la semaine prochaine plutôt. Et c'est passionnant de rentrer dans ces débats intellectuels et voir comment les jeunes sont motivés, sont compétents. Mais j'imagine que vous pensez plutôt à un événement. Et évidemment, dans ma carrière, il y a eu un Conseil européen de décembre 2005, où on a décidé des perspectives financières. À l'époque, on les appelait comme ça, perspectives financières 2007-2013. C'était la présidence britannique de Monsieur Blair, et j'ai passé 14 heures à courir pendant l'immeuble de Justus Lipsius parce que Monsieur Barroso voulait me voir en tête-à-tête avec Monsieur Blair parce que Monsieur Blair avait des messages hyper confidentiels à me faire passer. Je courais partout en essayant de combler les trous de la négociation. Ça a duré jusqu'à 3 heures du matin dans laquelle de manière évidente, les Britanniques se sont plantés dans la conduite de la négociation et ils avaient besoin de la Commission pour établir pour comment dire pour réparer les pots cassés. Et donc, sur le champ, j'étais capable de leur trouver la seule, qui pour moi était la seule solution possible. Donc, c'était un moment intense, quelques heures, qui était l'aboutissement des mois et des mois des préparations de cette négociation avec les collègues de la DG Budget. Et finalement, on a eu un accord à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin. Je ne me souviens pas. Je me souviens que j'ai perdu ma veste en courant de l'endroit à l'autre. Je ne savais plus où j'avais laissé ma veste. C'était un moment de gloire, sans doute. Mais au service juridique, j'ai eu aussi des moments très intéressants. Par exemple, lorsque nous avons, après des longues discussions, nous avons été en mesure de mettre sur la table du président de la Commission les formules juridiques nécessaires pour faire l'union bancaire, qui n'était pas évidente, qui posait d'énormes problèmes juridiques, mais grâce à la compétence légendaire des collègues du service juridique, nous avons été en mesure de les mettre sur la table du président de la Commission, de les faire adopter par le législateur. Et maintenant, on a une union bancaire, certes imparfaite, mais nous avons une union bancaire.
D'accord, un joli témoignage. Alors ça, c'est typique d'un haut fonctionnaire qui se dit, c'est un très bon moment à 3 heures du matin. Hein, ça, c'est fou, ça. Et peut-être une dernière question. À votre avis, il y a une vie après la Commission européenne?
Moi, je l'espère parce que il me reste 10 jours d'activité professionnelle et dans ces 10 jours, après ces 10 jours, je mettrai fin à une carrière de 41 ans dans le service public, dont 18 ans en tant que directeur général à la Commission. Donc, la réponse est j'espère qu'il y a une vie après la Commission. Je vais m'y employer. Je n'ai rien préparé pour l'après-Commission. Donc, si vous me voyez assis devant la porte du Berlaymont d'ici quelques semaines, c'est que j'ai découvert qu'il n'y a pas une vie après la Commission et que je demande humblement à être réadmis dans un petit bureau pour faire encore quelque chose. Mais j'espère qu'il y a une vie après la Commission. Je suis sûr que nous pouvons utiliser tout ce que nous avons appris, tout ce que les institutions nous ont donné pour, dans d'autres domaines, dans d'autres contextes, continuer à faire la publicité de l'idée européenne et continuer à œuvrer pour le projet européen.
Magnifique. Nous n'en doutons pas. Merci beaucoup, Luis Romero Requena. Je ne pense pas que vous serez assis devant le Berlaymont. Je pense que On viendra vous voir. La compétence est précieuse et elle est rare. Donc, merci beaucoup d'être venu sur Radio Economica. À bientôt, j'espère.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.